Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Éphésiens chapitre 2 et du verset 11 à 22. Éphésiens chapitre 2 du verset 11 à 22. Et je voudrais vous parler de la réconciliation des Juifs et des Gentils en Jésus. Les Juifs et les païens. Aujourd'hui, si les gens demandent qui est le véritable peuple de Dieu, voilà un passage que nous pouvons lire pour faire comprendre que le peuple de Dieu n'est plus ce peuple d'Israël qui existe aujourd'hui dans le pays là-bas, mais que lorsque Christ est venu, par sa mort, il a réconcilié en son sang un peuple de toute nation et de toute race. Et ça, c'est le peuple de Dieu. Donc voici un très bon passage pour nous de considérer dans Éphésiens chapitre 2, 11 à 22. Commençons avec les versets 11 et 12. C'est écrit, « C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Donc ici, nous voyons en premier lieu la nécessité de la réconciliation entre gentils et juifs. Paul dit, « Souvenez-vous que vous, autrefois gentils, le monde était divisé dans ces deux parties. Si vous n'étiez pas juif, donc vous étiez gentil, ou bien parfois on voit le mot païen, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas citoyens du pays d'Israël. Donc c'est à eux qu'il s'adresse ici. En fait, toute cette épître écrite aux Éphésiens est adressée non aux Juifs, mais aux païens. Donc vous qui étiez autrefois gentils dans la chair, et c'est écrit « appelés incirconcis » par ce qu'on appelle circoncis. Voilà encore des nominations qui distinguaient un juif, ceux-là étaient appelés des circoncis, et tout autre était appelé incirconcis. Donc, c'était nécessaire dans l'œuvre de Christ de réconcilier tous ceux qui étaient choisis par Dieu le Père et de les unir en Christ, dans un seul corps, qu'on appelle aujourd'hui l'Église. C'est l'Église qui est le véritable Israël de Dieu. Donc, l'œuvre de réconciliation de Dieu avec Dieu, ce n'est pas seulement entre Dieu et un individu. C'est vrai, il y a des individus qu'on appelle les élus, mais il y a un peuple unis. Et ce peuple a en commun l'œuvre de Christ et le sang de Christ versé à son égard. Et c'est par ce sang que tous ceux qui font part de ce corps sont unis en lui, justifiés, réconciliés, rachetés. Voilà différents termes que nous voyons. Donc, c'est en cela que nous voyons ce groupe de personnes, juifs comme gentils, qui étaient au temps de Paul, et il y avait beaucoup de différences entre les deux, mais en Christ, ils étaient unis. Rappelons-nous que Paul était un juif, mais le Seigneur l'a suscité pour aller prêcher aux gentils. Donc, c'est ça le ministère qu'il avait de démontrer aux gentils qu'ils n'avaient pas la loi. Il ne faisait pas partie de l'histoire d'Israël, mais en leur prêchant Ils ont vu qu'ils étaient tout de même des membres du corps de Christ, quoiqu'ils ne le connaissaient pas jusque-là. Quand il dit qu'il est appelé incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, les gentils, réellement par ceci, étaient dans une situation désespérée, étant étrangers. Voilà comment ils sont décrits ici dans le verset 12. Étrangers aux alliances, les alliances que Dieu a faites avec Abraham et David dans l'Ancien Testament, ceux-là étaient ignorants de ces alliances que Dieu a faites avec ses pères d'Israël, et donc sans espoir et sans Dieu. Cela montre qu'ils étaient non seulement séparés géographiquement ou politiquement du peuple d'Israël, mais spirituellement. Ils étaient morts et donc ils n'avaient pas l'accès à Dieu comme Dieu avait donné aux Juifs à travers les sacrifices et le tabernacle, le temple. Avant de venir à Christ, les gentils ici sont décrits comme sans Christ, sans patrie, sans amis et sans espoir et sans Dieu. Et je dois dire que cela décrit chacun de nous, même quoiqu'élu par Dieu avant la fondation du monde, jusqu'au moment où nous sommes attirés à Christ pour le connaître, nous sommes dans le même état spirituellement. Sans espoir, l'absence d'espoir face à la mort est amplement attestée ici dans les Écritures. Sans Dieu dans le monde, cela ne veut pas dire que Dieu n'existait pas, mais on ne le connaissait pas. On se faisait une notion de Dieu dans nos idées. Et c'est ça le sens du mot idolâtre. Ça commence avec le mot idée. Les gens se font une idée de Dieu, mais sans la révélation de Christ, aucun ne peut dire qu'il connaît Dieu, selon la vérité. Donc sans Dieu dans le monde, Dieu connaît ce qui lui appartient, mais ce qui lui appartient ne peuvent pas le connaître tant que l'Esprit de Dieu ne le révèle en eux. Mais aussi important, c'est écrit sans Christ. Lorsque Dieu se révèle aux pécheurs, c'est toujours à travers son Fils. Et là où il révèle son Fils, là il démontre sa grâce à ceux-là, que ce soit juif ou grec. Mais simplement d'entendre ces mots « sans Christ », je ne sais pas pour vous si ça vous trouble, mais je vivais des années sans vraiment savoir que j'étais sans Christ. J'ai grandi dans un milieu où on parlait du Christ, on lisait la Bible, mais je ne connaissais pas le Christ de la Bible. Il a fallu une œuvre extraordinaire, la grâce de Dieu dans mon cœur pour révéler Christ en moi. Et lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en moi, comme Paul atteste, selon son témoignage, je ne le connaissais pas. Et je crains qu'il y a beaucoup qui ont cette Bible, qui tient la Bible fermement, qui disent même, oui, la Bible est la parole inspirée de Dieu, mais ils lisent la Bible à travers. Et Christ ne leur a jamais été révélé jusque-là. Pourtant, c'est lui le sujet de toutes les Écritures. Les hommes peuvent prendre la Bible et prêcher sur toutes sortes de sujets, mais si Christ n'est pas révélé en eux, donc ils sont sans Christ, sans savoir ses bénédictions spirituelles, sans lumière, tout ce qu'on peut dire de Christ, remplacer avec ces synonymes sans paix, sans repos. Voilà l'état de beaucoup qui font profession de connaître Christ, mais qui continuent à œuvrer, à agir à vouloir être acceptés devant Dieu par leurs efforts, mais ils sont sans Christ, donc sans repos. Et en fait, sans sécurité et sans espoir. Alors, ils sont sans la connaissance de Christ. Le mot Christ signifie le loin de Dieu. Et qui il est comme prophète, comme sacrificateur, comme roi. Voilà toutes les choses lorsqu'il a plu à Dieu de se révéler à moi. Que mes yeux étant ouverts maintenant, quand je retourne pour lire les Écritures, je le vois. Mais ça, ce n'est pas à cause de mon intelligence, mais c'est grâce à l'œuvre de Christ. Donc, réfléchissons à ce que c'était pour nous d'être sans Christ avant que Dieu n'ait ouvert nos yeux. Et étranger à l'alliance d'Israël, cela inclut probablement à la fois les Juifs séparés et les gentils, parce qu'il y avait même des Juifs selon la chair qui étaient aussi étrangers à l'alliance d'Israël. Paul a dit, ce n'est pas tous ceux qui sont d'Israël qui sont Israël. Et beaucoup vivaient en tant que Juifs, mais étaient étrangers à l'alliance d'Israël. Il y avait, comme aujourd'hui, des gens qui assistent à des lieux de culte et fréquentent ces lieux, mais qui sont hors de l'alliance de Dieu avec son Israël, c'est-à-dire avec Christ. Ils sont en dehors et donc étrangers. Mais dans le verset 13 d'Éphésiens 2, donc on a vu la nécessité d'être réconcilié, que ce soit juif ou grec, gentil. Mais ici, dans le verset 13, nous voyons comment Dieu les a rapprochés à Christ. C'est écrit verset 13, « Mais maintenant », ça c'est un terme très important, « maintenant, depuis quand ?» Depuis la croix, depuis que Christ est venu et donné sa vie, « maintenant ». Et quand on lit ça, donc c'est toujours maintenant, aujourd'hui, c'est toujours le cas, depuis la croix. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez, notons, été rapprochés par le sang de Christ. Ça ne dit pas que vous vous êtes rapprochés, mais vous avez été rapprochés. Cela veut dire que ce n'était même pas leur œuvre de se rapprocher de Dieu, mais c'est l'œuvre de Dieu. Donc, mais maintenant en Jésus-Christ, les gentils qui sont maintenant en Jésus-Christ, et cela m'inclut, parce qu'à ma connaissance, je n'ai pas même un goût de sang de juif en moi. Je suis un gentil pur, si vous voulez. Mais maintenant en Jésus-Christ, je ne suis plus éloigné. Et j'étais rapproché de Dieu, comment? Par le sang de Christ accompli à sa mort sacrificielle. Vous voyez pourquoi nous insistons sur la croix toujours dans la prédication? Parce que c'est la croix, c'est de la croix que vient maintenant la réconciliation, la rédemption, la justification, la sanctification, et tout cela à la gloire de Dieu. Ce rapprochement se fait uniquement par le sang de Christ. Ce n'est même pas par votre foi personnelle. Il y en a qui pensent ça. Christ est mort, mais c'est à moi maintenant, par ma foi, de me rapprocher. Non. Cela a été fait à l'égard de tous ceux qui sont sauvés, même avant qu'ils ne soient au courant, qu'ils ne sachent que cela s'est passé. Lorsque nous étions encore pécheurs, ennemis dans nos esprits, Christ est mort pour son peuple. Mais cette réconciliation a été faite uniquement en Jésus, dans sa mort, à la croix. Et il nous faut insister là-dessus. N'est-ce pas ce que ça dit? Vous avez été rapprochés, soulignez ça, verset 13, par le sang de Jésus. Ça, ce n'est pas une philosophie, mais c'est une réalité. Beaucoup de gens suggèrent différentes manières de se rapprocher de Dieu. Et certains pensent qu'on peut le faire en observant la loi. Il y a même beaucoup qui se disent chrétiens, qui voient le rapprochement comme une coopération entre ce que Christ a accompli et ce qu'ils doivent accomplir. Mais ici, c'est tout simplement, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le seul moyen d'être rapproché à Dieu, donc, est par le sang de Christ. Point final. Il n'y a pas de débat là-dessus. Laissez les autres se débattre, mais nous savons ce que dit la Bible, ce que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix lorsqu'il a crié de haute voix, « Tout est accompli », souffrant comme s'il était un pécheur coupable, mais il n'était pas coupable. Mais le péché du peuple de Dieu lui a été imputé, donc il a souffert comme s'il était un pécheur coupable à la place des pécheurs coupables, et c'est ça qui les a fait rapprocher de Dieu. C'est ainsi, troisièmement, nous avons vu la nécessité de la réconciliation, nous avons vu la manière de cette réconciliation, mais dans les versets 14 à 16, nous voyons maintenant les faits, le résultat. Tout ce que Dieu fait a un bon résultat. Il n'essaie jamais rien. Dieu n'est pas en train de dire, je vais essayer de sauver. Non, il sauve. Et cela spécifiquement par l'œuvre de Christ. Cela est souligné dans les versets 14 à 16. Il dit, car il est notre paix. Le salut est une personne, c'est Christ. Il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Notons encore, par la croix, et en détruisant par elle l'inimitié. Oh, quelle bonne nouvelle de lire ici que Christ est la paix de son peuple. Jésus lui-même est cette paix. Ce n'est pas simplement qu'il donne la paix, il est la paix. Il n'a pas simplement fait la paix dans un sens entre Dieu et l'homme. Il a établi la paix entre Dieu et les élus que Dieu a choisis. Mais aussi, il a fait la paix entre juifs et gentils. Donc, quand on dit « il est notre paix », quand les gens se demandent comment des gens de différentes races et cultures peuvent s'asseoir ensemble dans un seul lieu et ne pas avoir de conflit, quel que soit leur différence de culture et de langue, et se réjouir ensemble. La réponse, c'est que Christ est notre paix. Notons, c'est écrit ici dans le verset 14, « Lui qui des deux ». Encore, le monde était distingué entre juifs et gentils. Donc, des deux, il a fait un seul, et notons, a aboli le mur de séparation. L'œuvre de Jésus sur la croix, c'est la fondation. Il n'y a qu'une seule fondation qui a été posée. Il est cette fondation du salut pour le juif et le gentil. Il n'y a donc maintenant plus de mur de séparation entre juif et gentil. Et gare à nous de vouloir rétablir le mur. Souvent, quand les gens se réunissent, on veut bien mettre certains de certaines tribus d'un côté et d'autres de l'autre côté, pour ne pas qu'ils soient ensemble. Non, Jésus a aboli ce mur dans le temple entre la cour des gentils qui était la cour devant le temple qui était ouverte à tous. C'était aussi appelé la cour des femmes parce que les femmes n'étaient pas acceptées d'entrer plus loin dans le temple. Donc ils avaient placé un mur et donc une barrière physique, un mur de séparation entre juifs et gentils. Ça, c'est ce que les hommes ont fait de ce temple. Ce n'est pas comme ça que Dieu l'avait établi au début. Et Paul était au moment de la rédaction de cette épître. Il était en détention domiciliaire à Rome lorsqu'il avait écrit cela, en attente de son procès. Parce qu'il avait été faussement accusé par les Juifs d'avoir emmené un gentil dans le temple au-delà du mur littéral de séparation. Bizarrement, c'est pourquoi ils l'ont condamné et l'ont conduit devant la justice. Mais cela n'a pas arrêté Paul, fermé sa bouche. Non, il continue à déclarer et expliquer qu'en Jésus, ce mur n'existe pas. Il ne doit pas avoir de mur de séparation. Le mur de séparation est disparu. Ici, c'est écrit « renversé », verset 14. Il a renversé le mur de séparation. L'inimitié, ça parle de l'inimitié entre les races. Bien sûr, l'inimitié entre Dieu et ses élus a été effacée dans la mort de Christ, mais ici il s'agit des relations entre les pécheurs que Christ a rachetés. Le mur de séparation est disparu parce que le Seigneur est plus grand que toute division intérieure. Si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas plus grand que toute différence, d'ailleurs c'est lui qui a créé les différences au début, les races, quelle que soit la politique ou bien l'économie, les différences linguistiques, géographiques, tout cela n'a plus d'importance ou de signification. C'est pourquoi nous pouvons aller partout dans le monde et prêcher ce même message, parce que Christ a déjà établi cette réconciliation entre les peuples. C'est pourquoi nous avons ces moments. Je suis américain, mais nous avons d'autres du Canada, d'autres d'Afrique, d'autres de Pakistan, ailleurs, qui suivent et qui écoutent et qui sont unis. Et ça, c'est l'effet, c'est ce que nous sommes en train de voir, l'effet de cette réconciliation de Christ, ayant aboli, notons, dans sa chair. Tout ça, c'est important. Verset 15. Ayant anéanti, aboli par sa chair l'inimitié, c'est-à-dire la loi des commandements contenue dans les ordonnances. Nous ne sommes plus sous ces lois. Toutes ces lois servaient leur propos au début, mais maintenant que Christ est venu, ces lois ne sont plus en existence. Et la source de contention entre juifs et gentils dans le passé était le fait que les gentils n'observaient pas la loi. Et même lorsque les apôtres prêchaient l'évangile, cela est aussi devenu un point de conflit parce que certains juifs disaient non, peut-être que la loi n'est plus imposée, mais il faudrait que ces gentils qui entrent soient circoncis, qu'on garde au moins cet aspect de la loi. Et Pierre a dû déclarer non, qu'on ne met pas, on n'impose pas ce fardeau qui n'a pas pu sauver qui que ce soit par le passé. Puisque Christ a déjà accompli la loi en notre nom, cela veut dire dans le nom de ses élus, et puisqu'il a déjà supporté la peine Il a observé la loi en toutes choses. Donc, nous sommes réconciliés par son œuvre sur la croix, mettant à mort la source de contention. C'est pourquoi, lorsque nous lisons la loi maintenant, bien sûr, l'Ancien Testament fait partie de notre Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Mais nous ne retournons pas là pour voir quelles sont les lois que nous devons observer, mais plutôt, nous retournons pour voir comment Christ a observé cette loi. L'inimitié dont parle Paul ici était réciproque entre les Juifs et les Gentils. Ce n'était pas seulement les Juifs contre les Gentils, mais les Gentils contre les Juifs. Les premiers, les Juifs, détestaient les Gentils. On les appelait des chiens. Et pouvaient à peine les considérer comme des hommes. Telle est leur haine pour les Gentils. Mais il faut dire aussi que les Gentils avaient aussi méprisé les Juifs. Ils avaient un mépris contre les Juifs. Et à cause des particularités de leurs rites et cérémonies religieuses différents de ceux de toutes les autres nations de la terre, ils étaient en conflit. Chaque groupe avait ses positions religieuses, mais tout cela a dû disparaître. C'est cette séparation que Christ, par sa mort à la croix, a tout anéanti. Et je note encore, par la croix, exactement comme dans le verset 13, par le sang de Christ. Quand ça parle là de la croix, ça ne parle pas du bois de la croix, mais de ce qui a été accompli à la croix, par celui qui est mort à la croix. C'est là que nous voyons l'accent que Paul place ici, sur l'œuvre de Jésus sur la croix. Il répète cela plusieurs fois, rapproché par le sang, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, dans un seul corps, comment? Par la croix. Soulignez ça dans vos Bibles. Cette unité ne s'est pas faite toute seule. Elle est le résultat de l'accomplissement acharné de Jésus. Oh, combien nous aimons chanter ces hymnes qui se réjouissent en Christ comme celui qui a donné sa vie. Et c'est comme cela dans la prière de Jésus dans Jean 17, lorsqu'il a prié pour qu'ils soient tous un. Est-ce que cela, c'est quelque chose de futur que nous attendons ou bien c'est une réalité maintenant? Non, c'est une réalité maintenant, même si nous ne nous voyons pas déjà en réalité, mais du point de vue de Dieu, tous ceux pour qui Christ est mort sont un. Il les a unis en Christ par sa mort. Donc cette réunion des Juifs et des Gentils en Jésus est un accomplissement par l'œuvre de Christ. Et nous avons cet espoir qu'un jour, effectivement, tous ceux que Christ a rachetés seront réunis, rassemblés en un seul lieu, en Christ, au ciel. Mais maintenant, la réalité, c'est dans l'Église. Ça, c'est le corps de Christ. Ça, c'est le peuple de Dieu, pas Israël naturel, mais l'Église de Christ. Maintenant, versets 17 et 18 continuent pour nous montrer comment les Juifs et Gentils sont réunis. Paul ne dit pas simplement, voilà les faits, mais il continue à expliquer ici dans les versets 17 et 18, c'est écrit, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Il est venu et a annoncé la paix à vous qui étiez éloignés et à ceux qui étaient près. » Donc, en répondant au même évangile, c'est un seul évangile qui était annoncé aux Juifs comme aux Grecs, aux païens, C'est par ce même évangile que Dieu, maintenant, a réuni ceux qu'il a choisis. Quand c'est écrit, la même paix est prêchée à ceux qui sont quoi? Éloignés de qui il s'agit là, les gentils. Et puis, il ajoute, et à ceux qui sont prêts, qui étaient ceux qui sont prêts, c'est les Juifs. Par lui, il dit, nous avons tous accès au Père. Les Juifs n'ont pas un privilège plus que les gentils pour s'approcher de Dieu. Non, nous avons tous accès au Père par un seul esprit. Donc, l'œuvre de Christ a bénéficié tous ceux que le Père a choisis, quelle que soit leur race, leur langue et leur tribu. Non seulement les Juifs et les gentils sont appelés par le même évangile, mais ils ont tous également la même marche essentielle avec Dieu par l'accès à son trône de la grâce. Il n'y a pas les Juifs, puisqu'ils ont l'histoire plus longue que les gentils qui peuvent dire, non, mais nous sommes plus proches au trône de la grâce. Non, nous avons tous accès. Il n'y a pas un groupe qui a un accès supérieur à l'autre. Et Dieu merci. Et ça, c'est l'œuvre de Christ. Et lorsqu'il y a des conflits qui surgissent, et il faut dire que nous aurons des conflits où vous mettez des gens de différentes races et langues ensemble, on peut anticiper des conflits parce que nous sommes toujours des pécheurs. Mais c'est pourquoi nous avons besoin d'entendre de nouveau ce message pour ne pas que nous oublions sur quelle base nous sommes sauvés. C'est la même base pour tous. Ce n'est pas le même évangile que cela est annoncé. Et que nous avons le même accès à Dieu. Donc, il n'y a plus de raison d'avoir ces conflits. Notons ici le rôle du Dieu trinitaire. Juifs et gentils doivent être présentés à Dieu le Père. Et c'est l'Esprit de Dieu qui œuvre dans leur cœur et les prépare, les attire à Dieu le Père, mais c'est Jésus-Christ lui-même. C'est à lui que l'Esprit attire les pécheurs. Un seul moyen de venir, l'œuvre de Christ, un seul appel par l'Évangile et par une seule manière, l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir confiance chaque fois que nous avons le privilège de prêcher cet Évangile. Que c'est Dieu qui œuvrera pour révéler Christ dans les cœurs de ceux qu'il a rachetés par Christ. Nous ne les connaissons pas. Je ne les connais pas. Quand je prêche, je peux avoir des gens qui semblent être à Christ, mais peut-être qu'ils ne sont pas. Ils sont assis là, simplement en train d'écouter, laissés à eux-mêmes. Peut-être qu'ils disent Amen de temps en temps, mais cela n'indique pas qu'ils sont ceux que Christ a rachetés. Par contre, d'autres, vous pouvez les regarder et dire, oh, s'il y a véritablement un païen, c'est celui-là. Mais peut-être c'est un élu de Dieu, que ce n'est pas encore le moment où Christ est révélé en eux. Donc, nous continuons à prêcher avec cet espoir que si ils sont élus de Dieu, donc c'est l'Esprit qui les attirera en son temps. Et dans les versets 19 à 22, alors nous voyons pour conclure une belle image de l'œuvre de réconciliation de Dieu, tant individuelle qu'entre des groupes. C'est écrit ainsi donc, verset 19, « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint devant le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Christ. Vous voyez comment est illustrée alors cette réconciliation comme étant ici un édifice ou bien une habitation de Dieu. Ce sont des termes que nous pouvons comprendre, mais il dit, vous n'êtes plus étrangers. Ici, Paul s'adresse aux croyants d'origine païenne et ils ne doivent pas se considérer comme des concitoyens de seconde classe du fait que c'est Dieu qui les a appelés après avoir mis la nation d'Israël de côté. Non, il n'y a pas de citoyens de seconde classe dans le royaume de Dieu. Et donc, ils ne sont pas seulement des citoyens à part entière, mais des concitoyens. Voilà comment Paul utilise ce terme dans le verset 19. C'est le même pied d'égalité que tout autre. Édifié, c'est écrit ici, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous pouvez peut-être dire, oh, mais je pensais que c'était le fondement de Christ. Oui, mais ici, il s'agit du message donné aux apôtres et aux prophètes. Puisque nous sommes un seul corps et nous avons le même accès à Dieu, donc il en découle également que nous sommes tous construits sur un fondement commun. On ne peut pas insister assez là-dessus. Ce fondement est constitué des apôtres et des prophètes originaux, ça veut dire à travers leurs écrits, leurs prédications, de leur révélation durable que nous avons ici dans la parole de Dieu et maintenant enregistrée dans le Nouveau Testament. Et que personne alors n'ajoute un autre fondement. Quand les gens veulent prendre ces paroles et puis aller construire encore un autre fondement ailleurs, il faut prêter attention et faire attention. C'est en ce sens de poser une fondation de révélation suprêmement autoritaire pour tout le peuple de Dieu. Nous n'avons qu'une seule source d'autorité, c'est cette parole, c'est ce fondement. Il y a bien des commentaires que les gens veulent citer. Non, nous avons la parole de Dieu. Et le fondement est déjà posé, déjà établi. Voilà comment c'est écrit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Notons, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les apôtres et les prophètes n'avaient pas autre message dans l'Ancien Testament que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà tout le message. Donc Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Cette pierre angulaire signifie littéralement le sommet de l'angle. Elle fait référence à la pierre de cap ou de liaison qui maintient toute la structure ensemble. Souvent, le nom royal étant inscrit dessus dans les anciens temps. En Orient, elle était considérée comme encore plus importante que le fondement. Intéressant de voir cela. Un autre écrivant sur cette pierre angulaire disait, elle désigne la pierre placée au coin extrême pour lier les autres pierres du bâtiment ensemble et la pierre la plus importante de la structure, cette sur laquelle sa stabilité dépendait. Notre stabilité, la stabilité du peuple de Dieu dépend de Christ, la pierre angulaire. Cela nous dit alors que l'Église est décrite ici comme un bâtiment parfaitement conçu par le grand architecte lui-même, Christ. Alors, ce n'est pas au hasard que ces pierres sont placées, jetées au hasard, quelque part, non, c'est Dieu qui a arrangé tout cela pour sa propre gloire et ses propres desseins. Oh, quelle joie et confiance cela nous fait de savoir cela. Et donc, il dit, vous êtes aussi édifiés ensemble pour être une demeure de Dieu en l'esprit. Ça, c'est vraiment étonnant de lire cela. Verset 22, lorsque le temple de Salomon a été construit, les pierres étaient préparées dans un endroit éloigné du site de construction du temple. Il était dit qu'on n'entendait pas le bruit même d'un marteau ou d'une hache ou d'autres outils en fer sur elle. Vous pouvez lire cela dans 1 Roi, chapitre 6 et le verset 7. 1 Roi, chapitre 6, le verset 7. Mais de la même manière, Dieu a préparé cette église d'abord et ceux qui devaient faire part de son église d'abord, en dehors de sa construction, mais au moment voulu maintenant, faire venir chacun en son temps. Et il les intègre dans son bâtiment. C'est le Père qui choisit la maison, c'est le Fils qui l'achète et c'est l'Esprit qui en prend possession. Voilà une belle image que nous avons ici. Il n'y a rien de plus noble alors que cette habitation de Dieu, qui est Christ lui-même. Cela est le temple de Dieu. Christ a dit, détruis ce temple et en 3 jours, il allait le rebâtir. Les gens pensaient qu'il parlait du temple de Jérusalem, mais il parlait de son corps. Et il n'y a rien de plus digne de révérence que cette habitation de Dieu. C'est là qu'il réside, en Christ. Et c'est là que son peuple réside, en lui. Il n'y a rien de plus solide, puisque c'est Jésus-Christ qui est le fondement. Il n'y a rien de plus élevé, puisqu'elle atteint les lieux célestes en Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus parfait et bien proportionné, puisque c'est l'Esprit qui est l'architecte. Il n'y a rien de plus beau, car elle est ornée des pierres de construction de tout âge et de tout lieu et de tout peuple. Il n'y a rien de plus vaste, puisqu'elle s'entend sur toute la terre et comprend tous ceux que Dieu a choisis et qui sont lavés par le sang de Christ, rendu blanc, le vêtement rendu blanc dans le sang de l'agneau. Donc il n'y a rien de plus divin, puisque c'est un bâtiment vivant, animé et habité par le Saint-Esprit lui-même. Alors que le Seigneur bénisse cette parole. Amen.